9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Natou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans ce studio. Pour vous situer, vous êtes la plus célèbre youtubeuse française, 5,1 millions d'abonnés à votre chaîne. Alors, j'ai fait le calcul parce que 5,1 millions d'abonnés, c'est abstrait. C'est davantage que les populations des villes de Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice et Nantes réunies. Et là, vous publiez ce petit album, ça s'appelle Icône, de chez Michel Lafon, parodie des magazines féminins. C'est le deuxième tome en 2015. Le premier Icône, c'était écoulé à plus de 160 000 exemplaires. C'est quoi l'idée de base ?
Oh, c'était un petit peu plus. Hein.
Ah bon, bah alors moi j'avais ce chiffre-là.
300 000.
Donc ça continue à se vendre alors.
Mais déjà, 160 000, c'est énorme.
C'est énorme. On considère qu'un livre, à partir de 10 000 exemplaires, c'est bien vendu.
Oui.
Donc quand on fait 300 000, c'est 30 fois un livre qui s'est bien vendu.
C'est vrai. Mais si ce deuxième se vend à 10 000 exemplaires, je serais déjà très heureuse.
L'idée de base ?
L'idée de base, c'est juste de parodier la presse féminine parce que c'est un objet qui est culte, qu'on connaît tous et toutes. Et du coup, c'est un terrain de jeu qui est immense. On peut faire des parodies de publicité, des faux conseils beauté, déco, voyage, des fausses interviews.
Pourquoi ce titre, Icône, contraction de icône et de conne, c'est ainsi que vous voyez la presse féminine ?
Non, mais oui et non. Non, mais parce que surtout, je pense que la rédaction d'Icône est un peu conne, c'est pour ça. Mais rien à voir avec toute la presse féminine.
Alors, on va pas tout détailler, évidemment. Il y a beaucoup de pages, beaucoup d'images. Il y a un gros, gros, gros travail d'iconographie. Il y a même un making-of à la fin. Vous avez inventé le gym ménage avec un kit à acheter, des accessoires qui servent à la fois au sport et au ménage. Ça vous est venu comment ?
Non, parce que c'est tout naturel, hein. Les femmes adorent faire le ménage. Évidemment, c'est dans nos gènes. Et puis, on ne pense qu'à être ferme. Donc, pourquoi ne pas réunir nos deux passions en une ? Faire le ménage, on sera fermissant.
Parfois, puisque je vous sens ironiser sur les femmes et la vision qu'on a d'elles, parfois c'est plus sociétal. Il y a un dossier médical avec ce scoop. Les règles sont rouges.
Oui.
Pourquoi vous avez fait cet article ?
Et parce que moi, longtemps, j'ai cru qu'elles étaient bleues, parce que dans les publicités, pour les protections hygiéniques, le sang est représenté de couleur bleue. Mmh. Donc je pensais que j'étais pas normale, moi, quand j'étais adolescente.
Et après, là, c'était une manière, à votre manière, de faire du militantisme.
Oui, bah c'est juste que je trouve ça un petit peu absurde. C'est vrai que si là, du jour au lendemain, on mettait tout de suite du sang dans les publicités de protection hygiénique, on serait peut-être un petit peu étonné. Mmh. Mais si depuis l'enfance, on était habitué, ce serait naturel et ce serait pas un tabou. Comme aujourd'hui.
Page 24, une accumulation de gros plans de tétons.
Oui.
Racontez votre idée.
C'est juste que, en fait, c'est un petit jeu.
Ouais.
Où il y a plein de petits tétons qui sont illustrés et il y a une petite pastille qu'on peut venir découper.
Ouais.
Et coller sur le téton de femme, puisque sur Instagram, les tétons de femmes sont censurés, alors que ceux des hommes, non.
Ouais. Donc c'est un peu pour foutre la pagaille et je suis poli. Alors, parfois vous avez des infos légères, parfois elles ont plus d'épaisseur. Exemple, il y a un article, ça parle beaucoup de massage dans la presse féminine, et vous écrivez « Quoi de neuf côté massage ?» Et vous vantez, je vous cite, « Le rituel CRS, caresse, repos, soin. » Je vous lis. « Le soin commence par un hammam au gaz lacrymogène pour réveiller vos sens, mais surtout vos glandes lacrymales par lesquelles les mauvaises toxines sont évacuées. Puis vient la séance d'acupression au flashball via des tirs dynamisants sur l'ensemble du corps. » Là, on pense aux manifestantes, on pense aux gilets jaunes.
Oui, bah on pense à... Souvent, dans toutes les manifestations, ça se termine toujours très très mal.
Non mais pourquoi ce choix dans un magazine, un livre qui paraît léger, tout d'un coup, l'irruption de ce sujet qui est un sujet grave, qui est un sujet de société ?
Mais parce que c'est un sujet qui fait partie de notre société, justement, et on peut essayer d'en parler aussi avec un petit peu d'humour. Il y a beaucoup de gens qui en parlent très sérieusement et mieux que moi, mais je peux quand même donner mon ressenti là-dessus avec quelques blagues.
Ah, vous en parlez pas mal, parce que c'est un sujet que vous connaissez, vous êtes une ancienne policière,
Oui. Vous
êtes dans la police pendant 5 ans. J'aimerais bien, à votre avis, comment vous vivez cette mise en cause récurrente de la police ?
Ça me fait énormément de peine parce que moi, quand j'étais dans la police, maintenant ça remonte quand même, il y a 7, 8 ans, voire 10, je sais plus. Et ben, j'étais entourée de collègues qui étaient plutôt jeunes et qui étaient là pour des bonnes raisons. J'ai jamais assisté à des violences policières, alors peut-être que c'était un petit commissariat et que je travaillais de nuit. Et encore la nuit, il pourrait se passer des choses qu'on ne sait pas. Mais non, moi, j'ai jamais assisté à ça.
Et le racisme,
et je trouve ça très grave.
Et le racisme intrinsèque, supposé, de la police, vous l'avez vécu, vous l'avez connu, vous l'avez côtoyé ?
J'ai assisté des fois à des collègues qui se prennent pour des cow-boys et qui parlent tout de suite d'une manière très sèche. Ce qui fait que le dialogue avec le citoyen se fait difficilement.
C'est... Oui, mais quel rapport avec le racisme ?
Non, mais j'ai pas assisté vraiment à du racisme. Non, vraiment, honnêtement, non. Par contre, à des gens qui se prennent pour des cow-boys parce qu'ils ont un uniforme et tout de suite avoir un air hautain et qui fait que le dialogue se fait difficilement, oui, ça je l'ai vu. Et bah, je pouvais rien faire parce que j'avais 22 ans à l'époque et je venais d'arriver. Et de toute manière, très rapidement, je me suis rendu compte que bah, c'était pas vraiment ma voix. Mais en tout cas, pour revenir sur les violences policières, évidemment, ça me choque. Je trouve, enfin, les images qu'on a vues dans le studio de musique sont horribles et j'ai hâte qu'il y ait quand même des mesures qui soient prises pour punir et stopper cette envie de, bah, de se laisser aller à ce point-là, quoi. Enfin, c'est fou.
J'arrive plus à enchaîner parce que je dois parler d'Hélène Manarino. On était sur les violences policières. Oui. C'est sa culture média. C'est on brasse beaucoup, beaucoup de sujets. On marque une pause et le portrait inattendu de Natou, c'est juste après ça.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Natou, la youtubeuse, 300 000 exemplaires du premier tome d'Icône. Voici le second. Nous aussi, on a une icône dans l'émission.
Oh, c'est
gentil. Américain Solène. Bonjour, Hélène Manarino.
Bonjour, Philippe Vandel. Bonjour à tous. Bonjour, Natou. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous.
Okay.
Alors, vous
Elle
pouvez
déjà,
faire
okay.
le A de Denis Brognard que vous faites quand quelque chose d'important va être dit. Je vous laisse le faire. Voilà, alors Natou, Patou, Nathalie, vous êtes, oui, on peut le dire, devenue une icône avec un Solène. Mais on va évoquer ce matin les icônes de votre vie. Entrons dans votre Babylone, par ce billet-là, le nom que vous avez donné à votre maison, une sorte de maison du bonheur. Oui, vous portez sûrement en ce moment votre nouveau survêtement Sailor Moon, un personnage de manga que vous venez d'acheter. On va évoquer tous ces personnages qui vous ont inspiré et qui vous inspirent encore, vos ours en peluche petite, Joker, votre schnauzer nain, ou encore Arnold, votre tortue, cet animal que vous imitez à la perfection.
Ah, bon ah oui.
Oui.
Mais
petite.
Je suis pas contente, ça.
Petite.
Petite,
mais finalement, avant tout cela, il y avait elle.
Une souris verte qui courait dans l'air.
Première comptine que l'on vous a chantée, Natou, fascinée par la vie et parfois par les publicités. À l'âge de 6 ans, vous avez supplié votre maman d'acheter la boisson en poudre Tang. La raison, il y avait des licornes et des arcs-en-ciel dans la pub. Votre maman en a acheté. Elle vous a préparé cette boisson dans une verseuse. Mais vous avez éclaté en sanglots car il n'y avait ni arc-en-ciel, ni petit poney.
Ouais. C'est génial, vraiment ?
J'y croyais vraiment.
Petite fille maligne, vous aimiez tricher en changeant les côtés des dés et en avançant vos pions quand les autres joueurs tournaient la tête.
Oh non, les dossiers
qui... Oh la balance
ouais. Ah bah oui, bah c'est le principe. Vous trichez toujours un peu d'ailleurs. Alors commençons par les autres icônes de votre enfance. Monsieur Cocotier, votre CPE. Véronique, votre prof de danse moderne en CM1, qui vous faisait hésiter entre un juste au corps vert, jaune ou bordeaux. Votre partenaire en classe, votre amie Mimise, sûrement avec qui vous avez fait le remake du projet Blair Witch. Et puis il y avait surtout elle. Gillo, eh oui, dont vous copiez le style vestimentaire ado, le manteau beige, col, fausse fourrure, les grosses lunettes de soleil, les créoles. C'est sûrement ce qui a fait craquer vos premiers amours, Karl et Arnaud.
Wow. Vous avez même les prénoms des premiers...
Mais,
oui.
Mais vous êtes, vous travaillez dans la police.
Non, ça c'est vous.
Ancienne collègue.
Non mais c'était vraiment Karl et Arnaud.
Oui. Bah oui, totalement.
Je dis pas de bêtises, Philippe. Ouais. Vous étiez rempli d'amour. C'est d'ailleurs pour ça que votre chambre était remplie de cœurs, du sol au plafond. Il y a eu vos heures de préparation pour aller danser au Métropolis avec vos tétines clignotantes autour du cou.
Attends. C'est quoi les tétines clignotantes?
C'est les cosiers. C'était la grande époque tectonique. Oh mon Dieu, mais quel dossier. Oui, donc il y avait des espèces de tétines en plastique qu'on mettait autour du cou qui clignotaient. Et je mettais des petits hauts imprimés, armés. Enfin,
ouais,
horrible.
Je comprends bien.
Horrible.
Natou, passons à une autre icône de votre vie. Britney Spears, vous aviez acheté une rate que vous aviez appelée Britney d'ailleurs. Et puis vous avez été capable de faire des heures de route pour aller dans la ville où a grandi Britney Spears, à Kenwood. Bref, il n'y avait rien à voir et la pancarte à son effigie a été arrachée. Britney égalée peut-être aujourd'hui par Katy Perry, Lady Gaga que vous rêvez de voir à Las Vegas, mais surtout par elle. Les Spice Girls, vous avez pleuré lors de leur dernier concert à Manchester. Évidemment, vous avez décidé de vous faire tatouer au dernier moment le cri de guerre avec vos copines sur le poignet.
Elle a toujours, en fait.
On a chacune une lettre qui, lorsqu'on se rassemble et qu'on met nos poignets ensemble, ça fait.
Voilà. Les meilleurs, je devais finir mon portrait avec ce cri. Les meilleurs souvenirs sont avec vos Spice Girls, vos L5, nom de groupe WhatsApp aussi, avec Tricot et Patchouli, vos copines de lycée, bref, vos icônes, vos amis qui vous ont admiré au Nouvel An avec votre costume et We Winehouse, avec le thème célébrité, qui ont profité du sosie de Johnny Hallyday que vous avez fait venir à vos 30 ans, des amis pour qui vous êtes une fée, pour qui vous faites tout, les meilleurs Pavlova avec votre magie mix. Vous avez aussi envie de leur acheter des robes plaid quand elles viennent chez vous, des amis pour qui vous organisez des anniversaires surprises, même si vous gaffez. Et oui, des amis pour qui vous êtes très ému lors des grandes annonces, mariage, grossesse, bref, une amie, la vraie, la généreuse Natou. D'ailleurs, il y a une amie que vous rêvez d'aller voir en Australie. Alors, vous aimez aussi partir au soleil alors que, que vous répétez toutes les vacances. Je supporte très mal la chaleur. Addict au lait végétal, à la salade de bienvenue du Buffalo Grill, aux caprices des dieux, à votre panettone le matin que vous ne deviez pas toucher jusqu'à la Saint-Nicolas, mais vous avez craqué. Mais l'icône à qui vous souhaitez vraiment ressembler, à qui vous dédiez tout, c'est votre maman, à qui vous avez tourné récemment pour YouTube. Mettre en valeur les icônes de votre vie, votre priorité. Je termine avec ce que l'on m'a conseillé et ce que vous avez fait. Wouhou ! Oui, vive Natou, une de nos icônes françaises.
Waouh, merci Hélène Manarino.
Ah, réaction. Bon, bah, je pense que j'ai plein de petites balances dans mon entourage. Là,
plein. On n'est jamais trahi que par les siens.
Mais quand j'écoute ce portrait, j'ai l'impression que j'ai encore 13 ans en fait.
Mais c'est bien d'avoir 13 ans. Et encore, je n'ai pas tout dit, Natou. Il reste des dossiers, revenez dans Culture Média.
Il reste des prénoms même. Hein. Ouais. Vous n'êtes pas arrêté à deux. Merci. Grand merci Hélène Manarino.
Avec
à
plaisir.
Demain. Natou, vous restez avec nous. Notre premier indispensable dans un instant, c'est Louise Bernard qui va nous présenter le spectacle d'Alex Vizorek. Parfait mélange entre art et humour.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Natou, la youtubeuse qui sort Icône 2, c'est une parodie des magazines féminins avec des enquêtes de société, avec des sujets mode, avec même des fausses pubs. Vous faites même une page de mode. Hélène Manarino parlait de votre fascination pour Jennifer Lopez alias Jilo. Oui. Vous faites la mode gilet jaune.
Oui, pour manifester looké en jaune fluo, enfin, petit talon jaune aussi.
Ce qui frappe, il y a un édito au début où vous êtes sérieuse, à la fin de l'édito que vous le signez de votre propre nom, Natalie, j'arrive jamais à prononcer votre nom,
Marqué,
c'est la première fois que j'y mets, c'est Natalie Odzierechko.
Pas mal.
C'est pour dire que vous pourriez abandonner le personnage de Natou.
C'est pas vraiment un personnage, c'est mon surnom depuis que je suis ado, donc les deux me vont en fait.
Mais ça veut dire que vous allez continuer à faire ce que vous faites sur YouTube. Parce qu'il y a parfois des gens qui veulent arrêter, qui veulent changer. Il y a beaucoup de YouTubeurs qui montent sur scène. Je ne vais pas tous les citer. Il y en a qui veulent faire de la musique, il y en a qui réussissent.
Oui,
il y a Squeezie qui a gagné des prix au NMA. Est-ce que vous pourriez abandonner à tout votre personnage de YouTubeuse pour faire autre chose?
Pour le moment, je m'éclate sur YouTube, donc je n'ai pas ce projet-là.
Vous pourriez monter sur scène et faire l'humoriste?
Alors, ce que j'aime sur YouTube, justement, c'est que je peux passer d'un sujet à un autre. Comme dans ce livre, il y a plein de sujets différents. Aucune page ne se suit. Donc, un spectacle, c'est vraiment jouer la même chose tous les soirs. C'est vraiment tout à fait autre chose et je ne sais pas si je serai capable de faire ça.
Et l'envie?
L'envie, pas plus que ça, en vrai.
Il y en a un qui a très envie, qui est très capable, et il y en a aussi une qui est très capable. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
On va parler d'un humoriste dont vous nous conseillez le spectacle, c'est Alex Vizorek, et on en parle, alors évidemment, les salles n'ont pas rouvert, mais c'est diffusé demain soir à la télévision sur France 5.
Oui, en fait, je viens vous parler d'adieux, des adieux dans le rire et l'intelligence quand même, hein, deux éléments essentiels de ce spectacle d'Alex Vizorek. Des adieux car ça faisait 10 ans que l'humoriste jouait son seul en scène. Alex Vizorek est une œuvre d'art et c'est sa dernière sur scène à Bruxelles que France 5 a filmé et qu'elle diffuse demain soir. Vous disiez, je ne pourrais pas jouer tous les jours, bah dites-vous qu'il a joué le même spectacle pendant 10 ans. Alors en 10 ans, il estime l'avoir joué même entre 800 et 1000 fois. Alors forcément, ça lui a fait un petit quelque chose d'arrêter.
Je pense que c'est comme une rupture sentimentale, mais pour un peu les mêmes raisons, parce que parfois on connaît tellement l'autre qu'à un moment on a envie de partir à l'aventure. C'est un peu idiot ce que je dis, mais avec ce spectacle c'était ça. Et donc quitter ce spectacle que j'ai aimé et qui m'a fait grandir tellement, c'était une rupture, on va dire, c'était d'un commun accord. Il y a eu une petite larme quand même.
Non, et pour nous, c'est plus des larmes de rire, hein, je vous rassure.
Je l'ai vu son spectacle à Alex Vizorek, donc comme c'est le même depuis 10 ans, donc c'est son spectacle sur l'art.
Exactement, ça parle de musique classique, d'art contemporain, puis de cinéma. C'était osé, hein. D'ailleurs, à ses débuts, Alex Vizorek a souvent entendu que ça ne marcherait pas, mais il s'est accroché pour une bonne raison.
Important, les gens qui ne me connaissent pas bien, sachez que moi, je fais partie de ces artistes humoristes qui font extrêmement confiance en l'intelligence du public. c'est parfois beaucoup de solitude. Mais
Et puis une minute plus tard, il continue comme ça.
Ça rejoint exactement ce qu'écrivait Patrick Susskind dans La Contrebasse. C'est un monologue magnifique sur la solitude d'un joueur de contrebasse. Et Susskind a cette phrase, il dit « Jeder Musiker wird Ihnen gern bestätigen, dass ein Orchester jederzeit auf dem Dirigenten verzichten kann, aber nicht auf dem Kontrabass. » Et je vous ai peut-être surestimé.
Voilà des petites pointes d'absurde comme ça à plusieurs moments. De l'absurde, il en trouve surtout dans les œuvres d'art qu'il commente face au public. Alors une partie du spectacle qui est vraiment savoureuse, je ne peux pas vous passer d'extrait parce que c'est très visuel, mais on rit beaucoup et on apprend aussi. Et puis surtout, il y a le sketch à voir ou à revoir, celui sur les cymbales. Tout part d'une réflexion. Quel type équilibré se dit qu'il va choisir comme métier joueur de cymbales? Pour lui, personne ne choisit sciemment un instrument qui intervient 3 fois sur 3h58 de symphonie. Et il développe sa réflexion pendant toute une partie du spectacle.
Des joueurs de cymbales, est-ce qu'il y en a des meilleurs que d'autres? Oui, parce que déjà, normalement, on n'en connaît pas. Alors, je vous ai charrié, évidemment. Mon public est toujours plus cultivé que moi, alors je le tente. Si vous deviez citer un seul nom, vraiment, votre joueur cymbaliste préféré, celui dont vous ne ratez jamais la sortie du nouvel album solo. Il n'y a pas un nom qui jaillit, hein.
J'ai entendu 10 fois ce passage et je ris
mais
encore.
Mais on rit toujours autant.
Et donc, il a fini avec ce spectacle. Alors, est-ce qu'il en prépare un autre? Qu'est-ce qu'il fait alors?
Oui, un tout nouveau, Ad Vitam, mais décalé à cause du Covid. Voilà, donc il devrait arriver à partir de l'été prochain, peut-être en septembre, avec encore une fois un thème très surprenant.
Le sujet, ce sera la mort, parce que je m'étais dit, qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué que l'art comme thématique de spectacle comique? Pour l'avoir rodé un peu, ça marche. Les gens sont tout à fait d'abord déstabilisés, mais enthousiastes à l'idée de rire d'un truc qui... Bah quand même, 99 fois sur 100, les fait pleurer.
Voilà, on a hâte de découvrir ça. En attendant, son spectacle « Alex Vizorek est une œuvre d'art » est diffusé demain soir à 22h sur France 5. Humour, intelligence, originalité. Vraiment, il a tout pour vous faire passer une bonne soirée.
Merci beaucoup, Luce Bernard. Natou, réaction? Ça vous tente?
Bah demain, je serai devant France 5, tout simplement.
Oh, dis donc, comme on dit,
surtout,
il est fait qu'on
allemand
pousse
LV1.
Que les mots.
J'aurais pu comprendre certains
mots. Ah,
c'est vrai,
compris.
Il disait quoi?
J'ai rien retenu.
Un grand, grand merci, Luce Bernard. On a tout retenu. Et c'est à voir et à revoir aussi sur France.tv.
Bien sûr, pour moi.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Natou, Icône, c'est le deuxième tome du premier qui avait très très bien marché. C'est chez Michel Lafon, j'ai pas donné le nom d'éditeur. C'est un livre illustré, un magazine, une sorte de parodie. Je vous présente Clément Le Sarf, Natou, bonjour.
Bonjour.
Clément, aujourd'hui, je l'ai dit, vous nous emmenez visiter le château de Chambord, mais dans un jeu vidéo.
Oui, et c'est possible grâce à un partenariat entre le jeu vidéo le plus populaire du monde, c'est évidemment Fortnite, et la région Centre-Val-de-Loire.
Attendez, juste un mot, ça vous fait un petit...
Non, mais quel est le rapport? Alors, j'ai hâte de le voir.
C'est ça qui est intéressant.
En fait, c'est une opération qui est assez sympa, qui mélange le gaming et le patrimoine. C'est WSC, une agence de marketing qui a mis ça sur pied ces dernières semaines. Ils ont recréé dans le jeu plusieurs châteaux de la Loire. Alors, ça peut surprendre, puisque Fortnite, on le rappelle, c'est un battle royale. Il y a 100 joueurs qui s'affrontent sur une île, et l'objectif, c'est d'être le dernier survivant. A priori, ça n'a rien à voir avec une paisible balade dans les jardins de Chambord. Mais voilà, il y a aussi un mode créatif dans le jeu, à côté duquel... Dans ce mode de jeu, on peut créer son propre terrain de jeu et c'est là que tout se joue.
Alors là, justement, la question que se posent Natou et moi-même, comment ça se passe?
C'est une mini-compétition, en fait. Chaque semaine dans Fortnite, les joueurs ils peuvent télécharger une map, ce qu'on appelle une map, c'est-à-dire une carte spéciale dans laquelle est modélisé un château de la Loire et ses jardins. Le premier terrain de jeu, c'était Chambord, c'était cette semaine, vendredi. Donc demain, ce sera le château de la Valette, puis Amboise le 18 décembre et Chaumont-sur-Loire le 8 janvier. Et c'est hyper bien fait, c'est très très bien modélisé. Écoutez, Théo Célé, c'est le responsable du projet chez WSC.
On a énormément travaillé avec le château. Ils nous ont fourni énormément de documents, que ce soit des plans, des captations visuelles en drone, des différents lieux, etc., pour qu'on puisse avoir le maximum d'éléments sur la remodélisation des différents lieux. Dans le jeu, ce sera exclusivement la partie extérieure de chaque bâtiment ainsi que les jardins. On ne peut pas aller sur un développement illimité. Il y a un nombre de blocs limité, si vous voulez, dans le jeu.
Voilà, donc c'est quand même très technique, ils n'ont pas fait ça au pif. Dans chaque château, il y a une course de vitesse, c'est-à-dire qu'il faut ramasser un maximum de pièces qui sont dispersées en hauteur, cachées autour du château. Et les joueurs qui feront les meilleurs scores sur les 4 premiers s'affronteront lors d'une grande finale qui aura lieu le 15 janvier sur une nouvelle map, la map du château du Clos Lucé. Allez, petit quiz rapidement. Le Clos Lucé, c'est la dernière demeure d'un célèbre peintre. Est-ce que vous savez lequel ?
Oh bah oui. Natou ?
Oui, bien sûr, c'est Dali, bien sûr.
Léonard de Vinci.
Exactement.
Moi, bon, ça se termine pareil.
Quelle révélation. Oui, c'est ça. C'était le dernier bain de Léonard de Vinci, qui est donc mort en France à Amboise.
Exactement. Donc, on joue, mais qu'est-ce qu'on apprend ? J'imagine qu'on apprend plein de choses sur ces châteaux.
Exactement. On n'apprend pas que des trucs sur Léonard de Vinci. C'est tout l'intérêt. Chaque château, en fait, est présenté lors d'un live sur Twitch le premier jour, quand la carte est dévoilée. Ça se passe sur la chaîne de Solari. Solari, c'est une équipe de e-sport. Et c'est le youtubeur Nota Bene, qui est spécialiste de l'histoire, qui livre quelques anecdotes sur les châteaux. Ici, il parle de Chambord.
J'avais une question aussi. Tu disais que les pierres qui ramenaient pour construire le château, ils les faisaient passer par l'eau, c'est ça ?
Alors en fait, ça part de plusieurs carrières qui sont disséminées un petit peu partout dans la région ou ailleurs. Ça arrive par les fleuves. C'est déposé au port de Saint-Dié qui est à 4 km. Et de là, ça part notamment en charrette pour arriver jusqu'au chantier.
Voilà, donc on apprend beaucoup de choses et l'objectif de toute cette opération, bien sûr, c'est d'attiser la curiosité des joueurs. François Bonneau, c'est le président de la région Centre-Val de Loire qui s'est associé à l'opération. Lui, il espère bien transformer les gamers en visiteurs en chair et en os.
Fortnite, c'est 250 millions de joueurs. Vous portez de l'image de Chambord, de Chaumont, d'Amboise, sous le regard passionné, accroché, parce qu'en jouant, on visite, on circule là-dedans. Ça permet de faire se rencontrer des gens qui ne seraient jamais venus de l'un à l'autre, c'est-à-dire des passionnés d'e-sport. C'est une tranche d'âge qu'on ne trouve pas dans nos sites aujourd'hui.
Et effectivement, c'est une opération qui est assez intéressante. Alors je précise aussi qu'il n'y a pas besoin d'être bon à Fortnite pour jouer à ces petits mini-jeux. En fait, il suffit juste de savoir utiliser un joystick pour monter en haut, en bas et trouver les pièces. Donc si vous ne l'avez jamais fait, eh bien déjà commencez par jouer à Fortnite, c'est très simple. Vous vous inscrivez et c'est gratuit en plus. C'est aussi l'avantage, il n'y a pas besoin de payer. Et puis une fois que vous avez testé ça, eh bien foncez, visitez les châteaux de la Loire. Vraiment, ce sont des endroits qui sont magnifiques, bien plus impressionnants évidemment en vrai qu'en pixel. Normalement, ils doivent tous rouvrir le 15 décembre.
On entendra ça à 18h avec Laurent Ministre qui va parler. Merci beaucoup Clément Le Saffre. Une réaction, ça vous tente Natou ?
C'est vachement cool et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de châteaux comme ça qui essayent de rajeunir la clientèle parce que moi j'avais assisté à un concert électro au château de Vincennes et c'était super chouette aussi comme concept. Donc c'est moderne.
À l'intérieur ou sur l'esplanade ?
À l'extérieur quoi, enfin à l'intérieur de l'enceinte.
D'accord. Et vous êtes une gameuse vous-même ?
Je joue à très peu de jeux, mais j'ai mes petits jeux favoris, genre Assassin's Creed, Lara Croft.
Que des bons jeux.
Que des bons jeux. Et dans Icon 2, il y a la présentation d'un jeu vidéo. C'est une parodie d'Animal Crossing. Oui. C'est Human Crossing. C'est quoi le principe ? Racontez ce que vous avez inventé.
Oh, on essaie de gagner de l'argent de poche en tondant la pelouse, revendant des petits objets à la brocante. Enfin, une vie plutôt banale.
et on voit qu'elle s'y connaît parce qu'elle écrit ce jeu au gameplay infini. Fera de vous un éternel ado.
On peut préciser, c'est un énorme carton. Depuis qu'il est sorti le 11 mars, il n'a pas quitté le top 5 des ventes de jeux vidéo en France. Ah
ouais. Vous y jouez aussi ?
Non, parce que je sais que ce serait chronophage et que je ne ferais plus rien d'autre. Parce que c'est des jeux sans fin, en fait.
C'est vrai. Ouais. Vous restez avec nous. Merci beaucoup, Clément Le Saffre. Natou revient dans la fin de Culture Média. Tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vondel.
Culture Média en compagnie de Natou qui publie Icône. Comment vous avez vécu le confinement ? Vous avez été touché par le Covid ?
Oui, alors le premier confinement, j'ai la chance d'avoir une maison. Oh, ma montre est tombée. Pardon. J'ai la chance d'avoir une maison de campagne, du coup j'ai pu le passer là-bas avec des amis aussi. On était entre célibataires à l'époque. Je ne suis plus célibataire.
D'accord.
Du coup cette fois c'est encore avec d'autres amis, mais on est en mode couple. Et oui, j'ai eu le Covid et j'ai eu une forme plutôt légère. J'ai vraiment eu de la chance parce que j'ai juste été fatiguée pendant 2 semaines et perte d'odorat, mais rien de très grave.
Dans Icône, cet album qui parodie les magazines féminins, vous avez inventé une nouvelle danse, c'est la Tech Covid.
Oui,
c'est un mélange de Covid et tectonique, ça consiste en quoi ?
C'est la tectonique qui reprend les gestes barrières pour danser utile. Oh là là. Ouais, pour les garder en mémoire.
Et à l'époque, parce que Hélène Manarino l'a dit, vous étiez fan de tectonique. Vous étiez à fond dedans.
Bon, j'ai frôlé cette période-là et j'allais à des soirées au Métropolis. Oui, bon, alors, ça va.
C'est arrivé à des gens très très bien. Vous aviez déjà parodié la danse dans une vidéo. C'est votre vidéo la plus vue, 42 millions de vues. Ça s'appelle Je sais pas danser, extrait.
Écartez-vous de la piste, là, d'où vient d'arriver. Je commence par
Bon bah c'est fou que ça passe sur Europe 1 quand même.
C'est ça le plaisir.
J'y aurais jamais cru.
C'est ça l'ouverture. C'est un clip, je précise, c'est un clip. On vous voit danser, vous dansez d'ailleurs très très bien. On vous voit avec Chris Marquez.
Oui, je fais semblant de mal danser. Ouais. Ouais, ouais.
42 millions de vues, vous êtes une influenceuse, je l'ai dit, très suivie. Est-ce que vous sentez des responsabilités dans ce que vous dites ou quand vous postez une vidéo sur Internet? Est-ce que vous dites, y a 5 millions de personnes qui peuvent me regarder?
J'ai une petite pression en plus, c'est-à-dire qu'au début j'improvisais mes vidéos, et là c'est plus vraiment le cas, je fais relire mes textes par mon meilleur pote qui me relit, me donne son avis et tout ça. Mais,
par un avocat? Non, parce qu'on fait relire les livres par un avocat, évidemment.
Non. En fait, non, mais de manière générale, je ne suis pas quelqu'un qui a des propos limites ou quoi. Donc non, je ne me censure pas. Fin...
Parfois, ça va très très loin, ce qu'on peut trouver sur Internet. Je veux vous faire entendre une influenceuse, elle s'appelle Kim Glow. C'est une ancienne candidate de l'émission de télé-réalité Les Marseillais. Elle est suivie par 1 million de personnes sur Instagram et encore davantage, évidemment, sur tous ses réseaux. Délire de complotisme sur la création du virus, je vous passe seulement 8 secondes, mais tout le reste est du même tonneau. En gros, non seulement, selon elle, le Covid est une invention humaine, mais aussi le futur vaccin va contenir des nanoparticules pour contrôler les populations. Elle dit qu'il ne faut pas porter le masque.
Elle fait ce qu'elle veut dans son monde étrange, mais c'est très grave, quoi. Elle est très suivie en plus. Donc,
Mais vous dites qu'il faut porter le masque.
Il faut porter. Enfin, moi, j'ai eu le Covid parce que moi, je pensais justement que c'était la fête. J'avais aucun ami qui était touché. Et justement, même, j'ai des amis influenceurs qui l'ont eu et qui n'en parlent pas. Donc, même quand je regarde dans mon quotidien sur Instagram, ça n'existait pas trop dans la vraie vie. Enfin, aux infos, oui. Et encore, je ne les regarde pas vraiment. Donc, je pensais que c'était la fête et que bon. Et on s'est retrouvés en émission de radio dans un espace très climatisé. On était une vingtaine dans un petit studio. Et là, vraiment, quand tu as plus de la moitié qui, 3 jours après, tombe malade, tu dis « Bon, allez, on arrête les conneries, maintenant, c'est masque tout le temps, quoi. »
Le message de Natou aux jeunes et aux pas jeunes qui nous écoutent. Parmi vos projets, vous allez vivre une aventure extraordinaire. Vous allez la faire vivre à votre maman.
Oui.
C'est quoi l'idée? Maman, ça va être ta fête.
Oui, donc j'ai diffusé la bande-annonce hier et j'ai eu la chance de pouvoir réaliser le rêve le plus fou de ma mère. Et donc ma mère est un personnage assez fantasque, qui aime faire la fête, qui aime les cabarets, les plumes. Et donc on a pu la faire monter sur les planches d'une scène mythique. Donc je préfère garder la petite surprise pour découvrir le lieu, mais c'était fou. Elle a été meneuse de revue d'une troupe de mamans. Et donc dans les mamans, on a la maman de Monsieur Poulpe, Jérémy Detlot et Bilal Hassani.
Incroyable.
Et donc elle a vécu son rêve à fond et ça sera diffusé le 16 décembre sur ma chaîne.
Sur votre chaîne, mercredi prochain. Merci beaucoup Natou. Je rappelle, ça c'est disponible dans toutes les librairies. Icône 2, c'est chez Michel Lafond. Merci d'avoir été avec nous. Merci Clément Le Saff, merci Louise Bernard. Nous on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. Nous serons avec Arthur, l'animateur, mais il est aussi le producteur de District Z, le nouveau jeu d'aventure de TF1, jeu très ambitieux animé par Denis Brognard, au décor hors normes, grosse production, énorme enjeu. Et puis l'humoriste Jérémy Ferrari pour la 7e édition des Duos de l'Impossible. C'est sur C8, juste après le flash, c'est Anne Romanoff. L'émission s'appelle Ça fait du bien. Je vous dis à tous et toutes, à demain.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.